Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Isabelle Dupuis. Cette semaine, Escale revient sur l'engagement de Beate Klarsfeld qui a consacré depuis les années 60 une grande partie de sa vie avec son mari Serge Klarsfeld à débusquer d'anciens nazis pour qu'ils répondent devant la justice des crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale. À la tête d'une fondation éponyme, Beate Klarsfeld était récemment au siège de l'ONU pour participer à une cérémonie à la mémoire des victimes de l'Holocauste. L'occasion de s'entretenir avec elle et d'en apprendre plus sur ce qui a motivé une jeune Allemande à choisir le chemin de l'engagement.
Engagée d'abord parce que je suis allemande et puis quand je suis venue en France en 1960, en principe à l'école en Allemagne, on apprenait très peu sur ce qui s'est passé pendant la guerre de 1933 à 1945. Et j'ai rencontré tout de suite mon futur mari, Serge, dont le père était mort à Auschwitz. Et alors j'ai compris qu'en tant qu'Allemande, il y a quand même une certaine responsabilité. Je ne me sentais pas coupable, mais une responsabilité historique morale à accomplir. Et puis finalement, les événements sont arrivés. Le premier cas, en 1963, je suis entrée dans un office franco-allemand pour la jeunesse en France. Et en 1966, en Allemagne, un chancelier, un chef du gouvernement, Kurt-Georg Kiesinger, est élu. Il était propagandiste nazi et membre du parti. Alors, j'étais à l'office franco-allemand. J'ai écrit plusieurs tribunes libres dans un journal en France, un journal de gauche, en disant à l'Allemagne, elle n'a pas le droit, si peu de temps après la guerre, de prendre un propagandiste comme chancelier. Et j'ai dit, il y a quelqu'un qui pourrait être chancelier en Allemagne, c'est Willy Brandt, qui a combattu le nazisme à l'extérieur. Et puis, j'ai révoqué de l'office franco-allemand, vous voyez. Alors, donc, il fallait agir. Il fallait essayer d'obtenir que Kiesinger quitte son poste, qu'il soit obligé. Alors, comme ça, j'ai entraîné une campagne avec publication des documents sur son passé, parce qu'avant, la presse ne voulait pas en parler. Et puis, cette action avec des documents, des réunions, approcher les journalistes et les parlementaires ne donnait rien. Il fallait donc chercher quelque chose de symbolique qui perce le silence autour du passé de Kiesinger. Donc, c'était cette gifle que je lui donnais en 68. C'était la gifle, finalement, compris. C'était la jeunesse allemande qui s'était opposé au fait que des anciens nazis soient dans les postes politiques. Et puis, c'était donc considéré comme ça. C'était la gifle de la jeunesse allemande contre la génération des nazis.
Vous avez parlé de responsabilité. Vous êtes, comme vous l'avez expliqué, d'origine allemande. Vous avez passé une grande partie de votre vie d'adulte en France. Avec le recul, quel regard portez-vous sur le travail de mémoire, le travail de confrontation au fait, le travail de réconciliation qu'ont fait ces deux pays ?
Entre la France et l'Allemagne. Mais nous avons donc obtenu que les Allemands jugent les criminels nazis qui avaient agi en France. Et c'était le travail de Serge qui a publié les listes des juifs déportés de France, 76 000 juifs, les livres sur avec les photos des enfants juifs déportés de France, il y a 11 600. Et puis nous avons obligé les Allemands qui avaient recueilli après la guerre tous ces criminels qui étaient responsables pour cette déportation. Ils sont devenus des hommes d'affaires, des juges, etc. Et puis ça, c'est un travail qui était mené d'abord par Serge et moi. Et puis après, on a trouvé tout un groupe de ceux qui avaient perdu leurs parents, des fils et filles des déportés juifs de France. Et ensemble, de 71 en 79, nous nous sommes battus avec des moyens souvent illégales, manifestations devant les maisons des criminels nazis. On leur dit où ils vivent. Et puis donc, comme ça, on a pu obtenir que la société allemande, qui dans les années 60 ne voulait pas s'occuper de ces criminels nazis, parce qu'ils étaient intégrés dans la société allemande. Donc, ils étaient obligés de les condamner et les juger. Ils étaient jugés à des peines de prison qui étaient pas tellement importantes, mais symboliques. Mais la société allemande a fait ce que nous avons voulu, c'est-à-dire les victimes. C'était unique finalement parce qu'en principe, ce n'est jamais des victimes qui ont obtenu le procès des bourreaux de leurs parents. Donc ça, c'était un travail extraordinaire et je crois que la France était très reconnaissante à nous parce qu'ils auraient pu agir un petit peu plus tôt, obtenir sur la pression des Allemands qu'un traité soit ratifié pour justement les mettre devant les tribunaux allemands. Ils ne l'ont pas fait, ils étaient très contents que c'était un travail qui était fait par Serge et moi et les orphelins.
Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut. Wo wir ferne jede Freude hinter Stacheldraht verstaut. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten.
Vous étiez récemment au siège pour participer à une cérémonie commémorative à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Il y a bien évidemment eu énormément de témoignages bouleversants, mais aussi beaucoup de préoccupations sur la montée actuelle de l'antisémitisme. Comment expliquez-vous ce phénomène et, de votre point de vue, quelles solutions y apporter ?
En principe, je vois l'antisémitisme en France, c'est souvent l'antisémitisme qui est lié avec l'antisionisme. Et puis, il vient de la gauche, de l'extrême droite aussi. Et bien sûr, nous avons en principe maintenant le problème des islamistes qui ont tué en France des écoliers dans une école à Toulouse. Vous avez vu ce qui est arrivé à Bruxelles. Un islamiste a abattu des membres du musée juif de Bruxelles. Donc, ce sont des dangers aujourd'hui qui pèsent sur les juifs en France, en Allemagne aussi, avec les nouveaux immigrés qui sont accueillis par l'Allemagne. Il y a pas mal qui viennent des pays où on enseigne la haine, surtout en Syrie, la haine des Juifs. Donc ce sont des problèmes qui, pour le futur, sont très difficiles à résoudre parce que qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour les éduquer, c'est souvent trop tard quand ils viennent d'un certain âge. Ce qu'on fait en France, on essaie de faire une sécurité autour des installations juives, des écoles. Mais c'est-à-dire, c'est très difficile parce que il y a tellement de pays qui rêvent que l'État d'Israël disparaisse. Et puis, Israël a le droit de se défendre, mais là, il est critiqué par combien d'autres pays. C'est un problème, tu vois, qu'on ne peut pas résoudre rapidement. Il faut essayer d'éduquer. Mais dans tous les pays où il y a des crises, il y a toujours les extrémistes deviennent forts. En France, nous avons le problème de l'extrémisme de droite, Marine Le Pen. Bon, son père a nié le Holocauste. Elle ne s'est pas manifestée trop là-dessus parce qu'elle essaie de chercher un autre électorat, justement. Mais c'est un grand danger pour les Juifs en France, ça c'est sûr.
Et comment pourrait-on servir des enseignements tirés de l'Holocauste pour essayer de trouver et de remédier à ce problème ?
Ce qu'on a fait, alors, il y a beaucoup de monuments, des musées, il faut éduquer les enfants, mais c'est difficile en France aussi, comme dans d'autres pays, d'éduquer les enfants qui viennent des familles d'émigrés, vous voyez, parce qu'ils ne veulent pas accepter, qu'ils ne veulent pas savoir sur la Shoah. Ils n'ont pas les mêmes racines qu'ont eues, par exemple, après la guerre. Même pendant la guerre, les Juifs sont venus en France pour un refuge. Ils sont intégrés. Mais aujourd'hui, il y a la génération, souvent, des pays, surtout qui viennent du pays à Maghreb. Les parents sont arrivés, mais la jeunesse, leurs enfants, aujourd'hui, ne veulent pas s'intégrer. C'est ça. Et ça, c'est un très grand danger pour l'éducation à l'école. Très difficile pour les professeurs. C'est un problème qui va rester. Hein.
Vous avez mentionné la situation des pays en crise. Vous étiez récemment au Burundi dans le cadre d'une mission de l'ONU. Pourriez-vous nous préciser les contours de cette mission et quel est le message que vous avez apporté ?
Serge et moi sommes nommés par l'UNESCO comme ambassadeurs honoraires pour l'enseignement de l'histoire de l'Holocauste et pour prévenir le génocide. Donc c'était moi, ma première mission, c'était d'aller en Burundi. Ce que j'ai vu sur place confirme tout ce qu'on lit dans la presse. J'étais donc accueillie par l'UNESCO et on m'a donc ouvert disons des rendez-vous avec tous les ministères, éducation, police, enfin tout ce qu'on a pu voir comme officiel, adjoint au président. Et puis le message était le même, nous sommes innocents, il y a une révolte ici chez nous, ce sont eux qui tuent. Mais j'étais là-bas quand même pendant une semaine, j'ai vu les photos, j'ai parlé avec les associations qui s'opposent au régime de ce président, qui ne veut pas voir les problèmes, parce que même dans la capitale, quand vous promenez, vous voyez la pauvresse. J'ai participé à une journée pour les enfants, parce que l'UNESCO s'occupe aussi des enfants en difficulté, on a fait la fête de Noël, c'est une pauvreté épouvantable. Et en Burundi, 60% sont des jeunes autour de 14 ans. Donc un président qui tue, qui essaie de mettre les Tutsis contre les Hutus, c'est-à-dire pour créer un problème en disant c'est eux qui s'entretuent, mais c'est lui qui dicte la tuerie. On enlève les enfants, on enlève les femmes. Beaucoup quittent aussi le pays pour aller au Rwanda ou retournent en Belgique. Alors donc j'ai essayé de l'expliquer, mais il n'y a pas de dialogue possible. Et j'ai vu aussi maintenant que des délégués de Nations Unies sont venus, 13, ils ont essayé d'ouvrir un dialogue. Mais un dialogue, ce n'est pas possible parce que ces gens-là, ce président et son entourage, parce qu'il a pris un entourage, sont des gens qui peut-être aussi voudraient, ne sont pas d'accord, qu'il organise les tueries, la campagne est surveillée par sa police. On voit la milice quand vous allez vous promener dans la capitale, vous voyez les uniformes bleus de la milice avec eux, des jeunes. On ne sait même pas qui tue dans la rue, c'est la milice, ce sont des individus qui agissent au nom du président, mais du gouvernement. Mais c'est un problème que ça touche les pauvres dans le pays. C'est un pays très, très pauvre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudra avoir une police internationale qui peut intervenir sur l'ordre des Nations Unies, parce que là, vous voyez, les pays africains, oh, ils disent que ce n'est pas la peine d'y aller. Le président a dit, s'ils arrivent chez nous, on va les chasser. Et il faut quand même une force qui ne demande pas au président pour dialoguer. Il ne va pas dialoguer. Il a son point de vue et puis arrive qui arrive. Bon, aussi longtemps qu'il peut tenir le pouvoir, il le tiendra.
Vous êtes-vous mobilisé pour d'autres causes et d'autres pays dans le passé également?
En tant qu'ambassadeur, c'était la première que je fais. Si, comme je disais aussi, je me suis engagé pour protester en Argentine contre les juntas militaires, en Uruguay. Je me suis bagarré contre les dictatures en Bolivie, en Chili, là où il y avait des criminels nazis qui étaient cachés, comme Rauf en Chili ou comme en Bolivie, Klaus Barbie. Mais c'est un travail aussi, je me suis protesté contre l'antisémitisme, l'antisionisme dans des pays comme en Pologne ou en Tchécoslovaquie. Mais ce sont en principe des actions que je le fais sur place. Je ne me contente pas de promener un pancarte devant une ambassade. J'essaie de réclamer ça sur place. Et puis, il y a toujours un début, peut-être d'autres qui suivent. Et justement, pour l'action du Burundi, j'espère quand même, avec ma visite, j'étais avant les Nations Unies, on peut obtenir quelque chose. Mais il faut traiter cette tuerie. On ne va pas à l'extérieur. Il y a chaque jour, des gens sont tués. C'est horrible, ce massacre. Mais il y a à nouveau des gens qui sont tués d'une façon horrible. Quand on voit les photos, on les arrête, on leur coupe la tête. C'est une cruauté, la ministre là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut trouver quand même, comme je disais, alors, on a laissé parler Hitler aussi pendant des années. Finalement, c'était trop tard. Il a commencé l'arrestation des Juifs. Et aujourd'hui aussi, je crois qu'il n'y a pas une force qui oblige le président, le gouvernement de cesser. Il faut trouver un dialogue de dur, voilà.
Avec le recul sur votre vie professionnelle, que diriez-vous, quel a été votre plus grand succès et aussi votre plus grande frustration?
Frustré, on n'est jamais trop. On sait qu'il y a des problèmes, on essaie de les entamer. Je dis, on a réussi dans pas mal de choses. Kissinger a été remplacé par Willy Brandt, un antifasciste. Nous avons obtenu le procès des criminels nazis qui ont agi en France. Grâce à notre action, Klaus Barbie a pu être jugé en France. C'est quand même des choses que... On n'est jamais frustré, on essaie de voir des choses qu'il faut, où on est compétente aussi, on a des connaissances. Et puis, on essaie d'aller jusqu'au bout, on ne réussit pas toujours, mais enfin, on le fait. Et puis, c'est pour ça, je crois aussi un message aux jeunes aujourd'hui, s'engager quand ils peuvent, quand ils voient des injustices, le faire tout de suite et pas attendre que la population, les jeunes, ça devienne de plus en plus nombreux pour manifester. Il faut le faire tout de suite, parce qu'avec une première manifestation, on arrive toujours à élargir la masse des manifestants. Tanul fanecha
Et c'est avec Beate Klarsfeld que se referme ce magazine Escale. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.